C'est un podcast Vivre FM.
Et on retrouve nos deux invités, Marie-Claire Vidja, fondatrice de l'association Théravie ARP-APA. Alors, le nom complet est plus long, mais on verra tout à l'heure. Et puis, Véronique Chauveau, avocat à la Cour. Véronique, qui connaît bien ce type d'affaires de rapt parental, puisque vous en avez traité de nombreuses au cours de votre carrière. Oui, vous ouvrez les yeux, oui.
Oui, oui, tout à fait, oui. Depuis 1984.
Bonjour à toutes les deux. Et puis, donc... Pourquoi vous concentrez sur l'aide aux enfants et non pas l'aide aux parents qui se retrouvent seuls sans l'enfant ? Marie-Claire Vidja.
Bonjour à tous. Merci pour cette invitation, cette troisième invitation. En fait, je me concentre sur les enfants parce que j'en suis une et parce que de ma petite expérience, après j'ai pas fait le tour du monde, hein, mais de ce que j'ai recherché, de ce que j'ai pu constater, de ce que les journalistes ont pu me rapporter, la voix de l'enfant en tant qu'enfant rapté, hein, par un parent, je précise, ne s'est pas exprimée. Première chose que j'ai voulu faire, et pour l'instant j'essaie de le faire par le voie des réseaux, de communication et des écritures en cours. Et parce que, de ce que je vois, on est toujours centré sur le parent victime. Alors moi, je vais faire une précision, le parent est peut-être une co-victime, certainement. On lui a enlevé son enfant,
oui.
Donc sa vie est bouleversée, mais la victime, c'est l'enfant. La victime dont la vie est mise en arrêt, détruite, prend un virage inconnu... Et finalement, de ce que je disais toujours, mais tout le monde me le confirme, c'est à vie qu'on traîne ça.
Oui.
C'est l'enfant. Donc, il est temps qu'il y ait la parole pour l'enfant et qu'elle lui soit donnée. Et cette association a ce but-là. But premier, donner la parole aux enfants, créer un lieu de parole, qu'il soit en ligne ou autre, le défendre, le représenter très modestement. Hein. On est tout petit, on est naissant. Et faire en sorte qu'on nous connaisse, donc être audible, visible, connu, puis par la suite nous espérons reconnu par un statut que moi j'appelle naïvement, mais bon c'est mes termes, EVRP, enfant victime de rapt parental, avec des droits pendant et après.
Oui. Vous avez vous-même, maître, des enfants qui vous contactent. Ça doit être compliqué pour un enfant de vous contacter, pour vous appeler à l'aide.
Non, les deux seuls enfants qui m'ont jamais appelé, c'était deux petits-enfants qui avaient été enlevés 6 ans avant au Canada. Leur père s'est fait arrêter sur la base d'un mandat d'arrêt au Canada. Et ils avaient demandé l'asile politique au Canada parce qu'ils ne voulaient pas rentrer en France.
Oui.
Et une assistante sociale leur a donné mon numéro et... J'ai fait en sorte qu'ils puissent rentrer en France sans être placés dans un foyer de la DAS. Et j'ai pas aimé tellement être leur avocat. Ça n'a pas été quelque chose de facile parce que j'étais coincé entre les deux parents qui réglaient des comptes qui n'avaient rien à voir avec les enfants.
Oui, oui, oui.
Comme très souvent d'ailleurs, c'est malheureusement les motivations des gens qui procèdent à des... Moi, j'appelle ça des déplacements illicites, mais on peut appeler ça des rapts. Le rapt est plus poétique et plus historique. Mais je voudrais revenir sur ce que vient de dire Marie-Claire, parce que c'est vrai qu'au début, quand la Convention de La Haye a été signée et qu'elle a commencé à être appliquée en France, et dans le monde entier, on parlait du parent victime. Et puis les anglo-saxons ont trouvé un terme qui est difficilement traduisible en français, qui s'appelle « the left behind parent ». Et je trouve que
celui
c'est plus
qui est laissé derrière.
C'est le parent qui a été laissé derrière. Il est évident, et elle a parfaitement raison, que l'enfant est la victime. Parce qu'on ne peut pas supprimer un enfant. Ce n'est pas seulement son parent. Les enfants, c'est comme des plantes. Ils ont des racines, ils sont des êtres sociaux qui ont des amis, de la famille, un cadre, ce qui est important pour eux. Et tout d'un coup, on va le bouleverser. Et ça, c'est inacceptable. Et je pense que la Convention de La Haye, qui est maintenant signée par plus de 100 pays, commence... Bon, on a eu des problèmes avec la pandémie, ça ne nous a pas aidés. Mais disons que c'est quand même une convention qui commence à être bien appliquée. On a des problèmes avec certains pays membres qui s'en moquent. Je veux dire, ils signent pour se donner une façade internationale, mais ils n'appliquent pas.
Oui.
La Russie, par exemple, pour ne citer qu'elle. Mais c'est une question de formation, de volonté des pays de la faire appliquer réellement. Et puis aussi de ne pas se faire face à des justices qui sont paupérisées comme en ce moment. parce que je ne peux pas dire que je sois très fière de la France en ce moment.
Oui.
Voilà.
Mais dites-nous alors, pourquoi vous n'êtes pas très fière?
Je ne suis pas très fière en ce moment parce que les magistrats sont totalement débordés. Parce qu'au-delà de la Convention de La Haye de 1980, on a un règlement européen qui s'applique dans tous les pays européens. Le règlement de Bruxelles 2 bis qui dit que entre la saisine du juge par le parquet et la décision définitive, il doit s'écouler au maximum 6 semaines. Et que celui qui a fait revenir un enfant, exécution comprise, dans 6 semaines lève le doigt, c'est impossible.
Mais ça prend combien de temps alors? Ça prend des années?
Non.
Quand alors, on y arrive
Non. Déjà, le premier problème, c'est entre la saisine, si vous voulez, le mécanisme pour les pays qui sont liés par la Convention de La Haye de 80. C'est qu'on saisit l'autorité centrale du pays où on vit,
oui,
qui va transmettre le dossier à l'autorité centrale, par exemple française.
Mm-hmm.
Là, l'autorité centrale va demander au procureur du tribunal compétent de bien vouloir tenter une remise amiable, parce que c'est obligatoire. Si la remise amiable ne c'est pas possible, le procureur doit assigner. Ça prend entre 3 et 6 mois.
Oui.
Alors que ça devrait prendre 3 semaines. C'est pas de la faute de personne. À la chancellerie, il n'y a pas le nombre de magistrats nécessaires. Les procureurs eux-mêmes sont débordés, donc ils font ce qu'ils peuvent. Bon, ensuite, il y a une audience en première instance. En général, le procureur assigne à 15 jours. Si on a de la chance et qu'il n'y a pas de renvoi, on a une décision relativement rapidement. La dite décision doit être signifiée. Le délai d'appel, si c'est rendu sous forme d'ordonnance, c'est 15 jours. Si c'est jugement, c'est un mois. Et ensuite, on se retrouve en cour d'appel. Ensuite, la difficulté, c'est l'exécution. Bon, alors en France, ça fonctionne à peu près bien. Il y a des pays où on n'exécute pas. Par exemple, la Roumanie est un pays où les magistrats travaillent très bien sur la Convention de La Haye. On obtient de très belles décisions. Mais il n'y a pas de mécanisme d'exécution forcée.
Oui.
Donc
c'est le
bins.
Rien.
L'autre jour, je disais en rigolant que c'est plus facile de faire revenir des enfants de Colombie ou d'Uruguay que de faire revenir des enfants de Roumanie.
Oui.
Et c'est pas de la faute des magistrats, parce que les magistrats font leur boulot. Le problème, c'est l'exécution.
Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, justement, de cas sur lesquels vous avez travaillé, d'enfants lésés, d'enfants victimes par l'un des parents, l'enlèvement de l'un des parents?
Il y a une femme avec laquelle je suis toujours en contact. Ça s'est passé il y a 35 ans. C'est un de mes premiers cas. Ces deux enfants avaient été enlevés en Pologne. Elle a réussi à récupérer les enfants. Et encore aujourd'hui, les enfants souffrent. Même s'ils ont fait la paix avec leur père, ce qui était nécessaire quand même, parce qu'à un moment donné, il faut savoir aussi faire la paix.
Oui.
Je pense qu'ils ont encore aujourd'hui des troubles. Et la seule personne... J'ai vu qu'il y avait eu un article qui avait été écrit, mais la seule étude profonde qui a été faite sur les effets à long terme des enlèvements d'enfants sur les enfants, c'est le professeur Freeman, en Angleterre, qui a fait une étude financée par l'Université de Londres et une université dont j'ai oublié le nom, pardonnez-moi, en Nouvelle-Zélande, et qui a fait une étude sérieuse sur une cohorte significative pour démontrer que les enfants souffrent de ces traumatismes à long terme.
Oui,
traumatisme... Alors après, il faut faire attention parce que dans le cadre de la Convention de La Haye de 80, les enfants sont entendus. Sauf que quand on est entendu, après avoir par exemple passé 9 mois ou 1 an avec le parent rapteur, sans aucun contact avec le parent left behind, la position de l'enfant peut être très différente. C'est-à-dire qu'on oublie tout le mécanisme psychologique qui se passe chez l'enfant quand il est enlevé. Il y a des parents qui disent, par exemple, « Ah ben, ton autre parent était mauvais. » Et l'enfant va adhérer à ça parce qu'il est avec le seul parent avec lequel il est, c'est le parent qui l'a enlevé. Donc il va adhérer à cette thèse. Donc c'est un peu compliqué parfois pour les magistrats qui entendent les enfants de savoir la vérité. Je me souviens d'un petit garçon enlevé d'Uruguay, il avait 6 ans. Et le juge de Toulouse décide de l'entendre. Moi je dis aucun problème, je suis pour l'audition des enfants. Et la mère disait que cet enfant avait été étranglé par son père. Et la juge était très fine, c'était une ancienne juge des enfants. Et elle lui dit alors, il paraît que ton papa a essayé de t'étrangler. Et le petit garçon dit, oui, oui, 40 fois. Et le juge décrit sur le rapport, c'est magnifique, aucune manifestation somatique. C'est ça, c'est toute la difficulté, c'est qu'est-ce qu'on fait de la parole de l'enfant. Parce
c'est
que la parole de l'enfant, elle exprime quelque chose de toute façon, mais ce n'est pas le choix. La Convention de La Haye ne permet pas à l'enfant de faire un choix entre vivre, par exemple, en Uruguay ou en France. Tout le principe de la Convention de La Haye, c'est que le juge du pays qui va statuer doit faire confiance au juge du pays de résidence habituelle de l'enfant. En disant, voilà, je vais vous renvoyer dans ce pays, je ne vous renvoie pas au père ou à la mère, je vous renvoie dans ce pays. Libre à vous de saisir le juge et d'obtenir le droit. Ce qui est d'ailleurs très souvent le cas. J'ai renvoyé en Russie le premier enfant concerné par la convention de La Haye juste après la ratification. Je me suis battu comme une chienne. Et arrivé à Moscou, la mère est allée voir le juge de Moscou qui lui a dit « Madame, vous voulez vivre en France avec cet enfant ? Aucun problème. » Mais bon,
Il
aurait pu dire autrement.
Oui.
Mais c'est vrai qu'il y a des pays où, quand c'est les mères ont plus de droits parce que c'est culturel, parce que le droit de la famille, c'est quelque chose d'éminemment culturel. Donc, à ce moment-là, il arrive que des enfants soient effectivement renvoyés. Mais au moins, ça se passe légalement. Et il y a un cadre de... Le gros problème, c'est que très souvent, quand ça dure longtemps, et avec la crise sanitaire, ça a été une catastrophe, on a des enfants qui n'ont aucun contact avec leurs autres parents pendant plus d'un an.
Oui, et parfois peut-être beaucoup plus, et avec des conséquences énormes. On va en parler dans un instant avec vous, Véronique Chevaux, et vous, Marie-Claire Vidja, dans un instant, juste après une pause musicale. Et on reprend avec nos invités. Marie-Claire Vidja, fondatrice, créatrice de l'association Théravie ARP APA, qui protège les enfants victimes de rapt parental. Elle en a été elle-même victime à l'âge de 10 ans. Et puis Véronique Chevaux, avocat à la cour, qui connaît ce type d'affaires puisqu'elle en traite très régulièrement dans son métier. Marie-Claire, quelles conséquences, on parlait des conséquences avec Véronique, les conséquences importantes et à long terme de ces enlèvements sur les enfants?
Je peux parler que de mon expérience, éventuellement celle d'enfants ex-raptés, parce que je suis en contact avec des enfants comme moi qui ont été auparavant raptés, qui sont rentrés, ou d'autres qui le sont actuellement, malheureusement. Me concernant, c'est vraiment, ça touche à tout. Ça touche autant psychologiquement que physiquement. Alors, au départ, je suis une tête de mule. Je ne suis pas victime. Ma réaction a toujours été « je suis pas victime ». Et en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que en fait, j'avais besoin qu'on comprenne que je le suis, mais je ne veux pas me victimiser,
oui. Mais
qu'on le reconnaisse. Et je me suis rendu compte aussi avec moi-même, en me parlant à moi-même, je me suis dit « bon, Marie, stop, pleure, tu as le droit ». T'as été victime. Ça fait quand même 36 ans. Ça date d'il y a 36 ans.
Oui.
Donc j'ai mis beaucoup de temps. Il y en a qui en mettent beaucoup moins parce que je connais des gens comme moi qui ont 27 ans et qui commencent à me parler à moi, mais ils ne parleront pas à d'autres. Et d'autres en ont 30, etc. Donc ils sont plus actifs que moi sur ce sujet. Donc les conséquences, elles sont déjà... Il y a l'aliénation parentale. Mais bon, pour moi, elle avait commencé avant. C'est-à-dire qu'on n'a jamais parlé de mon père. Donc en fait, moi, quand j'ai atterri chez eux, je ne savais pas qui ils étaient du tout. Je n'avais jamais entendu parler de ma famille paternelle ni de mon père.
Oui.
Je n'avais aucune idée ni de ses
origines. En fait, c'est votre beau-père qui vous a
emmené
depuis la France, qui vous a emmené en Algérie,
oui. Le
pays de votre père.
Oui.
Et vous ne connaissiez rien de ce pays.
Rien. Après coup, on se rend compte qu'on y a fait des passages, mais on ne savait pas que c'était ce pays. On ne nous a pas expliqué. C'est mon beau-père qui était le meilleur ami de mon père et qui donc a décidé de rapter ses propres filles, mes demi-sœurs, et de les déposer chez sa propre mère et de moi de me déposer dans la famille de mon père. Sauf que moi, je connaissais rien de tout ça. Donc l'aliénation parentale, elle avait déjà commencé avant à l'égard de mon père et elle a été à l'égard de ma génitrice. Je l'appelle ainsi parce que, elle était violente. Voilà, on ne va pas s'y attarder. Les conséquences, elles sont à la fois psychologiques, parce que quand on est enfant, on se met à douter. On se met à se dire, mais en fait, déjà, on m'a fait porter le chapeau, c'était de ma faute. Je ne comprenais pas, pourquoi c'est de ma faute?
Comment ça
pas.
Pouvait être de votre faute?
Ma génitrice m'a dit, étant donné que tu as dit, parce qu'on a fait un passage à la DAS avant d'être raptée, étant donné que tu as dit ce qui se passait à la maison... en gros, pour aller vite, qu'elle m'étranglait sous la douche tous les matins et d'autres violences, qu'elle me mordait, etc., jusqu'au sang. De ce qu'elle disait, elle a été déclarée mère inapte et déchue de ses droits parentaux. Moi, après, j'en sais rien. Enfin, je pense pas qu'elle l'ait dit si c'est pas vrai. Et du coup, que c'était de ma faute si on avait été raptés.
Oui.
Et donc, j'ai porté ça toute ma vie. J'ai mis beaucoup de temps, même adulte, avec toute la conscience et l'intelligence, entre guillemets, je continuais à me prendre la tête. Jusqu'au jour où ma petite sœur m'a dit, non mais sérieux, on était maman toutes les deux, on venait d'être... Mais c'est sérieux, si ta fille, demain tu divorces, tu vas lui dire que c'est de sa faute aussi ? Du coup, ça m'a fait tilt. Voilà, donc il y a tout ce qui est psychologique, de se demander, à force que les adultes nous disent qu'on ment, alors qu'on ment pas, à force que les adultes nous disent que c'est de notre faute. Et puis ma génitrice, quelle qu'elle soit, si je veux vivre avec, entre guillemets, j'ai le droit de le dire.
Oui.
Après, moi, j'avais exprimé que je voulais vivre avec ma mémé ou avec ma tante. Et puis, il y a la violence, parce que la violence ne s'est jamais arrêtée, en tout cas dans mon cas. Tout rap n'est pas accompagné de violence physique, soyons clairs. Par contre, tout rap est une violence en elle-même et est une violence psychologique accompagnée d'autres violences, notamment, comme disait l'avocat, c'est que... personnellement, c'est tout bête, mais quand, juste avant le kidnapping, je disais « Ouais, mais moi, je ne veux pas partir avec lui. » Je ne savais pas qu'il allait nous kidnapper. Hein, « Mais je ne veux pas partir avec lui. Moi, j'ai ma boum. Il y a 14 juillet. Enfin, oui. J'ai ma vie, quoi. Pré-ado, voilà. Sans... Et j'avais qu'une obsession, c'était de rentrer chez moi. Ma maison, mon village, mon pays, ma terre, ma famille. Bien plus que ma génitrice, il faut dire les choses comme elles sont. Elle me manquait quand même, je dois l'admettre. Et du coup, bon, à force de toutes ces violences, personnellement, j'ai des séquelles physiques. Mais bon, j'ai vu d'autres enfants, j'ai rencontré d'autres enfants qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Et ça, il n'y en a pas un qui n'a pas des séquelles psychologiques, ça va de soi, mais physiques.
Et d'ailleurs, c'est-à-dire des conséquences d'un traumatisme psychologique sur le corps, c'est ça ?
Alors moi, j'ai pas les compétences pour l'expliquer, mais en tout cas, je serais curieuse de faire une recherche. Je suis chercheur au passage, de faire une recherche et de voir combien parmi nous ont des maladies, notamment auto-immunes. Parce que quand je vois que ma maladie est chez d'autres raptés, je me pose des questions.
Oui. Oui.
Et du coup, j'en viens à... Alors, ce n'est pas le cas de tout le monde. Quand on rentre, si on rentre, en tout cas, si on rentre par des moyens légaux, c'est tant mieux. Il y a toute une structure, c'est le cas. Mais quand on rentre par soi-même, donc une évasion, j'ai des cas d'enfants qui essaient de s'évader là actuellement, je soutiens.
Qui vous écrivent ?
Voilà. Enfin, moi, j'aide comme... Je n'ai pas de moyens juridiques, il faut le préciser. Je suis une oreille tendue, une main tendue. J'espère avancer et pouvoir faire en sorte de créer ce statut qui fera beaucoup plus que d'être juste à l'écoute et de faire une campagne de sensibilisation à durée indéterminée. Ces enfants, s'ils rentrent par leurs propres moyens, quand ils vont arriver, il va leur arriver ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire qu'avant de se faire reconnaître et d'avoir le statut de rapatrié, en tout cas ça avait été mon cas, on se retrouve à la rue.
Oui.
Et puis même après, quand on a le statut, on se retrouve en foyer miteux, pour dire les choses comme elles sont, des galériens, et on va pas se soigner. Sérieusement, c'est pas possible, on n'a pas les moyens, même si on dit que c'est gratuit, ce n'est pas vrai. Et d'autant plus, le suivi psychologique n'est pas donné, même si on va à des associations, on leur remercie d'être là, mais c'est pas stable, c'est pas la même chose. Et moi, aujourd'hui encore, là, j'ai rendez-vous lundi prochain au CMP, et j'espère avoir un suivi profond et fort, plus que ce que j'ai pu grappiller à droite à gauche.
Et c'était il y a une trentaine d'années.
Moi, il y a 36 ans que j'ai été kidnappée. Je suis rentrée il y a 27 ans.
Oui. Et oui, vous portez ça toute votre vie, finalement.
Et il n'y en a pas un parmi ceux à qui je parle. J'ai fait un tableau Excel tellement ils sont nombreux, tellement je me paume dans les messages. Il n'y en a pas un qui dit l'inverse.
Oui.
Et tout le monde me dit, t'es la première à parler, merci de parler pour nous. Eh bien, je ne vais pas lâcher. Et puis, alors je me suis posé la question, mais Marie, pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu n'arrives pas à lâcher ? Mais à 14 ans, quand devant le ministre des Affaires étrangères français et algérien en 88, à cette fameuse rencontre où ces ministres ont osé nous interroger avec nos bourreaux dans notre dos...
C'était une visite, vous étiez à l'école en Algérie, c'est ça ? Et il y avait une visite d'officiel français ?
Non, c'est pas ça ! C'est pire que ça. En fait, la police est venue chercher les enfants raptés. Il y a eu l'événement des mères d'Alger. Et donc, les maires d'Alger ont fait beaucoup de bruit Madame l'avocat pourra en parler mieux que moi. On fait beaucoup de bruit et on finit par faire en sorte que l'État aille sur place en Algérie.
Oui.
Les chiffres, pourtant j'ai le livre, hein. Les chiffres je ne les ai plus en tête, mais on était à peu près 140 ou 180 gamins.
Oui, c'est beaucoup, oui.
Moi je sais que mon oncle, mon bourreau, m'a mise dans une voiture, puis on est parti vers le désert et tout, alors qu'on habite en ville, hein, tout en haut. Hein. Et la police nous a rattrapés, et puis on est allé à Alger. Et puis j'ai revu mes sœurs une demi-journée. Donc là, je ne les avais pas vues depuis, je ne sais plus compter, 3 ans, 4 ans. Et du coup, il y avait la presse. J'ai récupéré les photos de presse par mon beau-père. Hein. J'aimerais bien les voir aux archives.
Oui.
Et en fait, on attend. Et puis après, on va au bureau, chacun notre tour. Mais on y va avec qui ?
Avec la personne qui vous a enlevé.
On y va avec, moi pour ma part, on y va avec celui qui m'a kidnappé, mon beau-père, que j'ai pas vu depuis 4 ans quand même. Et avec mon oncle, mon tuteur légal, qui est, pour ma part, c'est pas le cas de tout le monde, hein, faut pas généraliser, attention, c'est pour ça que je me dis je vais pas le dire. Mais pour mon cas, c'était quelqu'un qui était enrôlé dans le FIS. Bon, le fils 88, on n'est pas encore, c'est pas encore chaud, hein,
oui.
Mais ça commence. Hein. On nous interroge toutes les trois et on se regarde toutes les trois et ils nous disent est-ce que vous voulez rentrer en France ? On était sérieux. Excusez-moi, je vais m'exprimer comme ça. Mais t'es sérieux, mec ? Pourquoi tu m'interroges pas ? À la limite avec des avocats, psychologues, enfin tout
bien
ce
sûr.
Que tu veux légalement pour qu'on dise pas que. Mais pourquoi tu mets ces gens dans mon dos ? Bien sûr que je veux rentrer. Tu le lis pas dans mes yeux ? Tu le vois pas ? Tu vois pas ? Moi, quand je regarde les photos. Moi, je vois. Je suis au courant. Comment eux, ils n'ont pas vu ? Évidemment que nous, on avait peur. Du coup, on n'a même pas dit non. On a dit non. Parce qu'on était effrayés. Mais non. Donc.
Mais là, il y a aussi un manque de volonté politique de vous porter
pardon,
secours.
Je voudrais juste faire un lien. Je remonte en arrière quand on a été raptés. Arrivé au bateau à Marseille. Il donne les papiers et je dis au monsieur, moi je croyais que c'était un douanier, mais en fait finalement c'est un policier des frontières, je lui dis c'est pas mon père. Et là, mon beau-père, il dit de toute façon on l'écoutait pas, c'est une morveuse. Et il lui dit appelez sa mère si vous voulez. Et je lui dis, qui vous dit que c'est ma mère derrière le téléphone ? Et puis même si c'est ma mère, en fait moi je veux pas y aller. En fait, là, si on appliquait la loi, si on écoutait l'enfant, bah tout s'arrête. Tant pis s'ils perdent du temps et de l'argent. Mais 10 ans, ça nous a coûté 10 ans. 10 ans.
10 ans pour revenir en France.
10 ouais. ans pour revenir toute seule. Parce que si je ne m'étais pas sauvée, j'y serais morte.
Vous y seriez, oui.
Non, ouais. Morte, parce que moi, l'alternative de me marier un terroriste, c'est niette.
Oui.
Je me suicide. C'était mon plan. Ah, donc à 14 ans, en 88, je me suis promise. Si j'arrive à m'évader, je crierai pour tout le monde. J'écrirai, parce que j'écrivais déjà à l'époque. C'est Mimi, hein. J'écrirai, je monterai une asso, je mènerai ce combat. Et quand je me suis rendu compte qu'en rentrant chez moi, mon pays adoré, je me suis agenouillée et j'ai baisé le sol en arrivant, pour qu'au final je sois en galère et que je trime, et que je puisse ni manger à ma faim, ni me soigner, et que je galère, je finis par réussir à avoir un logement, je fais des études, je fais
ça,
tout.
Ça a été très
et
très
je suis compliqué. Toujours précaire,
oui.
Au passage. Bah, j'ai beaucoup de mal.
Oui.
Et du coup, je me dis, bah, en fait, je ne peux pas renoncer. Renoncer à faire ce que je fais, c'est mourir.
On comprend bien le sens de votre combat, la création de cette association Théravie ARP-APA. Juste expliquez-nous rapidement le sens de ces termes.
Oui, alors, c'est rigolo, mais Théravie m'est venue comme thérapie, mais terre, à, vie.
Oui.
Donc, c'est la thérapie de nos vies et c'est une terre de revivre,
oui.
Revie. Donc, ARP, anti-rapt parental, APA, anti-abduction, parental abduction.
En anglais, oui.
Pardon. Et en fait, entre les deux, il y a international anti-RP-icide, herpicide, féminicide, incesticide, infanticide. Désormais, je demande aux humains de cette planète d'entendre herpicide, rapt parental, icide, que ce soit connu, qu'on nous connaisse. Parce que quand je quand les gens me suivent, et je les remercie, merci à tous mes abonnés sur les réseaux sociaux de nous soutenir, merci à nos abonnés, futurs abonnés de l'association, et continuer à nous poser des questions, mais quand ils me demandent « Mais c'est quoi rapt parental ?» ou bien quand ils me disent « Ah bon, il y en a tant que ça ? Mais oui. T'es sûr que ça vaut un combat et une cause ?» Voilà.
Voilà, Marie-Claire Vidja, donc on comprend la complexité de ce que vous avez vécu, la douleur. Véronique Chevaux, vous qui êtes avocat à la Cour, il y a un statut particulier pour le rapt parental. Il y a quelque chose qui doit changer.
Je pense qu'il y a quelque chose qui doit changer. On devrait déjà commencer par appliquer les textes qui ont déjà été signés, ce qui est déjà pas mal. Parce que je dois dire que le secrétariat général de la conférence de La Haye a fait un travail remarquable pour faire connaître cette convention et la faire ratifier. Je veux juste revenir deux secondes sur ce que Marie-Claire dit des mères d'Alger.
Oui.
Il faut quand même replacer les choses dans leur contexte. À l'époque, les relations entre la France et l'Algérie étaient un petit peu chaudes quand même. Et Odette Brun, qui était une femme absolument extraordinaire, a été la première à faire une association pour aider les mères dont les enfants avaient été enlevés en Algérie. L'Algérie est un pays qui n'a signé aucune convention sur ce sujet avec la France ou d'autres pays. Le Maroc, par exemple, à l'inverse, a non seulement signé la convention de La Haye de 1980, et c'est le premier pays musulman qui l'a fait, mais a également signé la convention de 1996 sur la protection des enfants. Donc c'est un pays qui fonctionne. Bon, après, on peut toujours trouver des trucs pour dire... Mais ça marche. La Tunisie a une convention qui est un peu... Ça marche moins bien. Elle a signé quand même. Alors, on a par exemple le cas de l'Égypte. Alors, l'Égypte, on a une convention bilatérale avec l'Égypte qui suppose d'avoir une décision préalable. Ce qui n'est pas le cas la plupart du temps.
Oui.
Ça ne marche pas. Point à la ligne. Ça ne fonctionne pas pour des raisons culturelles et ça ne fonctionne pas. Alors, il y a un statut, il faut améliorer les textes, il faut améliorer le fonctionnement parce qu'en fait, c'est une convention extrêmement simple et qui marche bien. Il faut la faire connaître, il faut former les magistrats, il faut former les policiers. Je pense que Marie-Claire a raison. Mais maintenant, je pense qu'aujourd'hui, un enfant qui, au passage d'une frontière, dirait « je ne veux pas », je pense que le policier l'entendrait.
Il s'interrogerait.
Oui, oui, il s'interrogerait certainement. Je pense aussi que le cas de Marie-Claire est particulier parce que c'est un, pour moi, c'est un enlèvement criminel. C'est-à-dire que ce n'est pas le père qui a enlevé l'enfant. La plupart du temps, c'est les pères ou les mères. Alors très souvent, dans le dialogue Est-Ouest, c'est plutôt les mères parce qu'elles ont la trouille. Par exemple, je prends l'exemple d'une mère tchèque ou d'une mère allemande ou d'une mère américaine qui vit en France. Elle parle pas bien français, elle se dit « le juge va pas m'écouter ». Donc oui. Hop, je prends mes gosses et je retourne chez moi et je vais essayer de saisir mon juge chez moi. Dans le dialogue Nord-Sud, c'est plutôt les pères qui enlèvent les enfants. Très souvent, sans se rendre compte de ce qu'ils font. Je me souviens d'un ouvrier de chez Renault à Flins qui un jour enlève ses deux garçons et trouve... Alors il va dans le bled, il les remet à sa mère au bled et quand il rentre, à l'époque, la justice pénale marchait mieux qu'aujourd'hui, il est très étonné d'être interrogé par les flics et il dit « Mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Je me suis séparé de ma femme qui apprend à mes enfants que je suis un sale arabe, ben, j'ai pris mes deux nains, je les ai mis chez ma mère au bled, tout va bien. » Et quand on lui a expliqué, ça s'est bien passé. Il y a beaucoup de parents qui se rendent pas compte de ce qu'ils font. Alors, il y a la peur de la justice d'un pays qu'on ne connaît pas, dans les enlèvements que j'appellerais déplacements civils, pas l'enlèvement criminel comme elle.
Oui.
Ça, je pense que c'est beaucoup plus grave, beaucoup plus profond, et ça se rapproche plus de, par exemple, l'histoire de ce fameux aviateur américain dont le fils a été enlevé et tué. On est plus dans quelque chose de beaucoup plus lourd. L'enlèvement parental, le problème, c'est que très souvent, la justice considère que c'est un problème entre les parents. Je me souviens d'un procureur qui disait « Ah, mais c'est un problème entre les parents, pourquoi m'en mêlerais-je » Ben non, le problème, c'est qu'on a un enfant qui a des droits. Son droit, c'est de vivre dans le pays où il est né, d'aller à l'école où il a l'habitude d'aller. C'est pas seulement l'enfant de monsieur Mohamed Ben Chikroun et de madame Dupont, c'est aussi un enfant qui va à l'école, qui a des droits, et ces droits-là, on les respecte pas. Et quand on enlève un enfant d'un pays pour l'emmener dans un autre, très souvent, sans rien dire, et c'est ça le pire. Ce que disait Marilyn Friedman, c'est pas le parent qui va dire du mal qui est le pire parent qui enlève l'enfant, c'est celui qui ne dit rien. Alors imaginez un petit nain qui a 4-5 ans, à qui on ne dit rien, bah, il se dit « ma maman m'a abandonné » ou « ma maman est morte ». Et il va vivre dans ce silence. En plus, en étant totalement changé, c'est-à-dire c'est un petit garçon qui allait à l'école française, et ben on va lui demander de parler tchèque ou roumain ou russe ou autre chose. Et puis quelquefois, ça va plus loin. Moi, j'ai eu le cas d'un pauvre conducteur de camion anglais qui a eu sa petite fille enlevée en France. Sa petite fille s'appelait Chérie, pour vous dire à quel point il l'aimait en français.
Oui.
Et on l'a retrouvée 6 ans plus tard en France. Elle s'appelait Cheryl. Et sa mère lui avait fait croire qu'elle était née d'un amour de passage. Et quand il y a eu une expertise, parce que le juge, à l'époque, là-bas, avait demandé une expertise, l'expert a dit ce que cette mère a fait, c'est un meurtre psychique. C'est-à-dire qu'on a tué chez cet enfant ce qu'il était.
Non, d'accord.
Et il est évident, quand Marie-Claire parle des conséquences physiques, il n'y a pas un psychiatre au monde, et surtout un pédopsychiatre, qui vous dira qu'il n'y a pas de lien entre l'état mental et l'état affectif dans lequel on vit, et les conséquences physiques. L'esprit et le corps sont liés, donc c'est évident qu'il y a des conséquences.
Oui.
Évident, ça me paraît évident.
Oui. Rapidement, Marie-Claire ?
Oui, très rapidement. Effectivement, ça me rappelle quand je suis arrivée et qu'on me met très courtement à l'école française et que tout d'un coup, on dit non, c'est fini, école algérienne. Bon, il y avait les classes bilingues, heureusement. Mais moi, j'étais complètement paumée.
Et, bon,
et qu'on décide que je m'appelle tel prénom. Non, non, non. Donc, je me souviens, on m'appelait, puis je réagissais pas forcément, j'avais pas de réaction. Et ça me rappelle aussi, quand j'étais enfant, avant d'être kidnappée, donc de rencontrer mon père, sachant que je l'avais. Après coup, je me suis rendu compte qu'il était venu nous voir 3 fois. Mais on me le présentait comme l'ami de mon père, de mon beau-père, ce qui était vrai. On m'avait jamais dit que c'est. Moi, je pensais qu'il était mort.
Ah oui, oui.
Mais vraiment, toute mon enfance, je pensais qu'il était mort. C'était aussi simple que ça. Par contre, je voudrais juste dire 2 choses très importantes. Moi, ça date d'il y a 36 ans, sauf qu'il y a une enfant, et pas qu'une, mais bon, voilà, je vais parler d'elle, qui est quand même raptée depuis 6 ans en Algérie. Pour une fois, l'Algérie a dit « faut ramener l'enfant en France ». Oh, première. Par contre, en termes d'effectivité, il n'y a rien d'application. Il y a un appel Interpol, il y a tout autour. Mais rien ne se fait, donc, et à ce qui paraît, ah, ça c'est à vérifier, elle serait en milieu radical, donc, il y a 36 ans, là ça fait 6 ans, je vois pas de différence, et j'ai une dame qui a 52 ans, qui m'a écrit un petit message, et ils restent tous anonymes, parce que personne, pour l'instant, n'est prêt à se mettre à nu, puisque souvent on ne nous croit pas, donc faut le vivre au quotidien, hein. Et 52 ans, qui m'écrit texto, merci de faire ce que vous faites. Moi, j'ai 52 ans. Je rêve. J'ai été raptée, j'avais 10 ans. Je rêve encore que quelqu'un vienne me sauver.
Ah oui. Oui.
Alors, j'aimerais bien parler aux instances nationales et internationales et qu'on puisse travailler ensemble en prenant effectivement les contextes en considération et créer un statut d'enfant victime de rapte parental avec des droits et un suivi pendant. Alors, si on a un contact, il y a plus de contacts aujourd'hui. Avant, il n'y en avait pas. Puis, il y a les moyens technologiques.
Il y a Internet, il y a les réseaux
sociaux. Je ne suis pas psychologue. Quand ces enfants m'écrivent aujourd'hui, je fais ce que je peux en tant qu'enfant et adulte et maman. Mais des psychologues qui seraient à l'écoute, qui auraient un suivi psychologique de ces enfants à distance, ce serait pas mal. Et au retour, s'ils ne sont pas, ils ne retournent pas dans leur famille, qu'ils aient une aide, logement, blanchi nourri et suivi psychologique et remise en selle, formation, emploi. On ne nous jette pas à la rue.
Oui, alors ça c'est l'un des objectifs de la création de l'association Théravie ARP-APA. Vous pensez que ce serait utile, Véronique Chevaux ?
Ah mais moi je pense que Marie-Claire a raison. Le problème c'est que je suis un peu plus vieille qu'elle. Je pense qu'il ne faut pas non plus rêver.
Oui.
C'est-à-dire que là où je pense qu'elle réussira, c'est de porter la parole des enfants enlever, déplacer, tout ce qu'on veut. Je pense qu'il est utile parce que c'est la première fois quand même qu'il y a quelqu'un qui se bouge en disant « je représente les enfants, je veux aider les enfants ». Actuellement, toutes les associations qui existent aident les parents, même oui. les meilleures. Par exemple, pour moi, la meilleure association d'aide en matière d'enlèvement d'enfants, c'est Reunite en Angleterre, qui fait un travail absolument exceptionnel. D'ailleurs, je vais brancher Marie-Claire sur eux. Elle fait un travail exceptionnel, mais c'est pas une association pour les enfants. Bon. Maintenant, dire qu'on va avoir une aide, etc., quand on voit le mal qu'on a, quand je vois ces pauvres juges des enfants qui sont débordés de travail, je donnais un exemple idiot, mais dans le nord de la France, où il y a énormément d'enfants migrants, il y a des juges des enfants qui prennent des ordonnances de placement qui, un an plus tard, ne sont pas exécutées parce qu'il n'y a pas de place dans les foyers. Mmh. Et moi, j'ai eu le cas dans des terres lointaines mais françaises, d'enfants qui devaient être placés. Le juge des enfants m'a dit lui-même, je ne les placerai pas dans ce foyer parce que ça n'est pas acceptable comme condition. Donc on fait ce qu'on peut. On fait face à des problèmes d'argent qui sont quand même très très cruciaux. On fait face aujourd'hui en plus à une sorte de nationalisme rampant qui fait que les juges sont atteints, je vais pas... La Pologne, par exemple, soyons clairs, quand on a un ministre de la justice polonais qui dit que le droit européen est inférieur au droit polonais et que la Pologne fait partie de l'Europe, là, on peut s'inquiéter. Alors, accrochez-vous pour faire revenir un gosse de Pologne, hein, déjà. Ce qui est dommage, parce que la Pologne travaillait très bien avant.
Et ça, c'est fini.
C'est fini pour l'instant. Bon, alors, il faut garder l'espoir, il faut continuer à travailler... Il faut aussi être humble, parce qu'au début de l'application de la Convention de La Haye, la France a fait beaucoup de conneries, il faut bien le dire aussi. L'Allemagne a été très mal vue pendant longtemps. Il y a eu ce groupe parlementaire franco-allemand qui a fait avancer formidablement les choses. Et maintenant, en Allemagne, ça marche très bien. Donc, il ne faut pas non plus rentrer dans le complotisme. Bon, ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup d'échanges. Il y avait un très vieux juge qui maintenant est mort, qui s'appelait Peter Singer, qui était un des plus grands juges de la haute cour à Londres. En Angleterre, Grande-Bretagne, il y a deux tribunaux qui s'occupent de ça. Il y en a un pour l'Irlande du Nord et l'Écosse qui s'appelle la Court of Sessions à Édimbourg. Et un autre, c'est la High Court à Londres. Et à Londres, il y a un nombre de magistrats déterminés qui s'occupent de gens d'affaires, qui sont remarquablement formés et qui ont pris les décisions les mieux motivées du monde entier. Eh bien, ce vieux juge, avant de mourir, disait « nous devons nous parler ». Il faut que les juges de tous les pays se parlent. Alors, ça commence à se faire en Europe avec le réseau judiciaire, le réseau des magistrats européens, ça commence, mais il faudrait se souvenir de ce que disait Peter Singer, prendre son bâton et se parler. Maintenant, comme vous disiez, on a des moyens formidables. Eh bien, faisons des zooms avec des traducteurs entre les juges des différents pays.
C'est vrai, ça marcherait.
Ah ben, et oui. Quand on se connaît...
Et ça se fait pas.
Ben non. Pourquoi donc ?
Oui.
Pourquoi donc ? C'est vrai qu'un juge qui appelle... Alors, en France, les magistrats n'aiment pas trop ça parce qu'ils disent on respecte pas le principe du contradictoire. Je vois pas où est le problème de faire une petite note. On la met au dossier, les avocats des deux côtés vont la voir. Mais je pense que si les juges ne se... Ils se parlent, ça commence, je veux dire... On ne peut pas dire non plus que ça n'existe pas du tout. Mais je crois que si les juges se parlaient, ils comprendraient les difficultés de leur système judiciaire respectif. Parce que les systèmes judiciaires sont différents. Et c'est difficile à comprendre, quand on est un magistrat français, de savoir comment ça fonctionne. Quand il y a eu l'histoire de Carlos Ghosn, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur le Japon, personne ne se pose la question de savoir pourquoi c'est comme ça. Moi, je ne vais pas critiquer un système judiciaire, je vais essayer de savoir pourquoi ça fonctionne comme ça. Mais je crois que les enfants y gagneraient beaucoup. Bon, pour l'instant, ce n'est pas la joie. Je vais même vous raconter une petite histoire. L'année dernière, c'était le 40e anniversaire de la Convention de la Haye de 80. Donc, un certain nombre d'amis dans le monde entier, parce que j'ai quand même des amis avocats dans le monde entier, et des parents, on s'était dit, on va faire une flash mob à la Haye. On va faire débarquer les parents avec des drapeaux, des ballons. On va commander un grand gâteau. Et comme c'était un dimanche, on va faire venir le secrétaire général de la Haye dehors. Eh bien, vous savez quelle a été la réponse ? Non, ne faites pas ça. Parce qu'il y a actuellement des groupes extrêmement virulents sur les réseaux sociaux qui sont contre la convention de la Haye de 80.
C'est fou. Ah oui.
En disant, nous rendons les enfants, les gens... On est contre le Japon, contre l'Allemagne, contre l'Italie, contre la Suisse, contre tous les autres pays. Il n'y a que les Français qui sont bien. Et c'est pareil dans tous les pays, il y a des groupes comme ça.
Oui,
dans
on
n'est
pas
pays.
Pire en France qu'ailleurs.
Et que l'idée de la conférence était de dire, si on fait ça, il va y avoir des contre-manifestants, la police va interdire le truc, et si elle le laisse faire, il va y avoir de la castagne. Ce que je comprends, mais ça m'a fait mal.
Oui, oui.
Je veux dire, ça fait presque 37 ans que je me bats contre les enlèvements d'enfants, et me dire qu'on ne peut même pas faire la fête pour dire merci de ce que vous avez fait, parce que moi je dis merci à la conférence de La Haye, on peut même pas le faire parce qu'il y a des groupes anti-La Haye, anti-collaboration, anti-coopération entre les pays. Et écoutez le discours politique actuel. Restons chez nous, fermons les portes et surtout ne parlons pas aux autres. C'est ça qui va nous tuer aussi. Hein.
Oui, oui. Et, donc,
et je pense que Marie-Claire a été victime d'une situation politique, parce que c'est pas facile, et que même aujourd'hui, quand elle dit, je la comprends, qu'un enfant qui est actuellement enlevé avec un gouvernement qui veut le rendre, eh ben, il a des difficultés, parce que c'est pas évident, dans certains endroits, d'aller pour récupérer un gosse. C'est vrai que c'est difficile.
Oui. Alors, on termine cette émission, juste un dernier mot, Marie-Claire Vidja.
Oui, effectivement, on me l'a dit que j'étais un problème politique. Très compliqué, et qu'on était désolés. J'avais reçu un courrier dans ce sens-là. Malheureusement, je l'ai laissé là-bas puisque je suis partie en courant. Je voudrais dire deux choses. C'est que je suis consciente de la folie et du rêve que j'essaie de faire, et je pense surtout que ça viendra peut-être après, donc pas de mon vivant, mais ça m'est égal. Je pose les bases.
Oui.
Donc, c'est l'objectif. Et parmi ces bases, pour qu'elles se fassent, j'espère pouvoir avoir audience auprès de notre gouvernement, de l'Assemblée générale, j'espère... l'Assemblée nationale. Oui. Tout va bien. j'ai bugué. Et j'espère aussi pouvoir... je rêve, hein, je continue dans mes rêves, faire un discours au nom de nous tous. Nous, les enfants victimes de rapt parental à La Haye. Et j'espère aussi qu'on enlèvera cette foutue prescription, puisque si un enfant comme moi, 36 ans plus tard, se dit « mince, je veux réparation, je suis enfin prêt, j'en peux plus, si j'ai pas cette réparation, je me sens mal. »
Oui.
Et qu'on nous dise « il y a prescription ». Prescription de quoi ? Ma vie, elle est... je suis vivante, il n'y a pas de prescription, j'en souffre. Non.
Oui, oui.
Alors, moyen, mais bon, c'est une réalité, c'est celle des enfants.
Ouais. Et donc, on encourage toute personne, tout enfant qui est victime de cette situation ou qui l'a été, à se rapprocher de votre association Théravie ARP, APA Marie-Claire Vidja.
Ouais. Ouais. Voilà. Il y a tout, on est sur les réseaux, donc on nous trouve très facilement. Et puis, il y a le mail, on peut nous écrire par message sur Instagram. Ouais. Bon, aussi sur Messenger, mais on est vraiment sur Instagram. Et il y a le numéro de téléphone.
On peut voilà. Vous contacter, quel que soit le pays où l'on se trouve.
N'importe quelle heure, à partir du moment où je peux répondre, je réponds.
Très bien, merci Marie-Claire Vidja. Véronique Chauveau, un dernier mot.
Non, moi je trouve qu'elle fait un travail formidable, et si on peut l'aider, on l'aidera.
Voilà, parfait.
À la mesure de nos moyens. Voilà.
Vous êtes là, vous êtes là, c'est un cadeau. Merci.
Merci à toutes les deux. Je vous remercie d'avoir parlé de ce sujet difficile, le rapt parental, et d'avoir témoigné toutes les deux dans cette émission.
C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.